Si les personnes âgées et ou vulnérables ne se confinent-elles pas déjà d'elles-mêmes, Serge Guérin, à la différence du premier confinement, les enfants vont à l'école, les Français vont travailler assez librement. Est-ce que c'est pas la preuve que c'est un confinement ciblé qui dit pas son nom en réalité?
Oui, en grande partie. Puis c'est juste la preuve que les gens ne sont pas idiots. Que globalement, ce n'est pas les gens de 80 ans qui se sont précipités pour aller en boîte de nuit après la fin du premier confinement. Que globalement, ça s'est plutôt bien passé parce que les gens sont tout simplement lucides et intelligents. Ils savent qu'ils peuvent être en problématique plus difficile que d'autres. Ouais. Donc ils y font attention. Ils font attention aussi par rapport aux plus jeunes, y compris d'ailleurs dans une logique de solidarité. Ils ne veulent pas peser, mais ils veulent juste être pris pour des êtres humains adultes, des femmes et des hommes qui sont capables de décider par elles-mêmes et pas qu'on leur fasse la leçon. C'est plutôt ça. Mais oui, globalement, quand on regarde la réalité, par exemple, post-premier confinement, les gens ont fait attention. C'est pas là où il y a eu le gros des problèmes. Les gens se sont vus, les grands-mères, les grands-pères, je dirais pas les papis et les mamies comme notre Premier ministre, non. Mais les êtres humains qui ont pris de l'âge ont aussi été avaient envie de désir. Parce que peut-être qu'on est des gens qui sommes là pour consommer, mais on est d'abord là pour être en lien avec les autres. Ouais. C'est ça quand même le sens de la vie. Et donc ces personnes-là, comme les autres, en ont besoin.
Alors, on évoque des personnes fragiles, c'est le chiffre du jour. Combien? Et d'ailleurs, il faudra s'entendre sur la définition de personnes fragiles.
Exactement, 22 millions, Elisabeth. C'est le nombre de personnes considérées comme fragiles face au Covid-19 par le Conseil scientifique. Donc, c'est essentiellement les personnes de plus de 65 ans et les plus jeunes qui présentent des facteurs de comorbidité comme l'obésité ou encore l'insuffisance rénale ou l'insuffisance respiratoire, le diabète, exactement. Pour vous, Maxime Sbahi, c'est donc ces personnes qu'il faudrait confiner pour permettre aux autres de retrouver une vie normale, économique, sociale, culturelle.
Oui, ce qu'il faut regarder avec ce virus, c'est que le virus, il est discriminant par nature. C'est-à-dire qu'il s'attaque aux personnes vulnérables, principalement les personnes âgées, en surpoids, qui ont des maladies chroniques. Et donc, pour vous donner deux chiffres, 81%, ce sont les chiffres de l'Agence publique Santé publique France, 81% des patients aujourd'hui hospitalisés pour le Covid ont plus de 60 ans. 70% des patients en réanimation ont plus de 60 ans. Donc, le virus est discriminant sur l'âge par nature. Le problème, c'est qu'on fait subir à tout le monde les mêmes restrictions de liberté. Et Aristote nous a appris que traiter de manière égale les choses inégales est la pire des injustices. Donc ce qui est important quand même de regarder là-dessus, c'est que ce virus, il est dangereux pour nos aînés, mais il est aussi dangereux pour l'avenir du pays. Et donc il faut prendre tout ça en compte dans l'équation. Moi, je suis économiste, je ne suis pas épidémiologiste. Je vois tous les dégâts qui sont faits auprès de la jeunesse et auprès de notre pays. Ça abîme notre pays, ce confinement. Donc il faut une gestion beaucoup plus fine de la crise sanitaire.
C'est qu'on voit bien que le confinement, ça peut être une mesure exceptionnelle lorsqu'on n'a pas trouvé d'autres moyens de faire face à ce type, à cette pandémie. Cela dit, ça ne va pas être une solution qu'on va pouvoir utiliser à long terme. Pourquoi ? Pour des raisons économiques. C'est-à-dire que le stop and go économique est dévastateur, hein, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas trouvé d'autres moyens pour s'enrichir que de produire et de consommer. Donc on est obligé d'entretenir un bon rapport avec ces deux composantes qui sont primordiales pour l'économie. Et il faut avancer et considérer que le confinement est une méthode moyenâgeuse et on va faire face à d'autres épidémies. Il y aura d'autres risques. Il faut réellement travailler sur les solutions.
Et quelles méthodes alternatives suggérez-vous? Des méthodes comme tester, tracer, isoler?
Alors, il y a certains, faut pas oublier qu'il y a certains pays qui ont très bien réussi à s'en sortir. Déjà, la Chine, on n'en parle pas, mais la Chine a déjà éradiqué, en tout cas, c'est ce qu'elle annonce.
Avec des méthodes et un confinement extrêmement strict, pour dire les choses.
Non, mais d'accord, mais c'est une réalité. Là, je parle d'un point de vue, les chiffres sont relativement probants. Il y a aussi la Corée du Sud, il y a aussi l'Allemagne qui fait nettement mieux que nous. Pourquoi ? Parce que c'est de l'anticipation. Hein. On a raté la première vague, on est en train aussi de louper la deuxième. Pourquoi ? Parce que, sur la deuxième, on a permis les gens de continuer de travailler, mais on les empêche de consommer. Et ça, il faut regarder les deux composantes principales dans notre économie. C'est bien sûr produire, mais c'est aussi consommer.
Serge Guérin, il me semble que dans les arguments que vous avanciez, il y a le fait que le confinement abîmerait plus ou pèse plus sur les personnes âgées que sur les autres et que donc cette espèce de confinement à deux vitesses les pénaliserait encore plus. C'est bien ça?
Alors oui. Alors déjà, premier élément, les personnes âgées, elles ne produisent peut-être pas au sens classique du terme, mais enfin, vous enlevez les personnes âgées, le tissu associatif s'écroule, par exemple. Ce sont des gens qui sont hyper actifs, hyper acteurs. Et d'ailleurs, on était super contents de les trouver, par exemple, au premier tour des élections municipales, pour aller voter ou pour tenir les bureaux de vote. Et puis, je rappelle que le tiers des élus sont, par exemple, des personnes âgées. Donc, je veux dire, donc ces personnes-là sont des actifs sociaux, autrement, mais ils y contribuent. Mais c'est vrai que, on peut dire, et c'est vrai que le Covid-éo touche plutôt plus les gens les plus fragiles. Vous avez dit 22 millions. 22 millions, c'est un tiers de la population française. C'est-à-dire qu'on partirait aussi du principe que ça ne ferait rien aux autres de se dire, tiens, je suis dehors, pendant qu'il y a un tiers de la population qui est dedans. Je ne suis pas sûr que psychologiquement, ça ne fasse pas du mal à tout le monde aussi. Parce que,
au fameux lien intergénérationnel.
Au fameux lien, et puis simplement à l'humanité des uns des autres. Mmh. Et puis, les vieux en question, ça peut être nos parents ou nos grands-parents.
C'est-à-dire vieux, soit... c'est quoi ? C'est à partir de 65 ans ? Là, ça concernerait là, les gens à partir de 65
c'est-à-dire
ans ?
C'est-à-dire à l'âge où, globalement, on estimait qu'il fallait encore pouvoir travailler. Mmh. Et donc, on voulait faire travailler des vieux. Ensuite, on les interdire de sortir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit aussi toutes les contradictions. Moi, je crois que, bien sûr, qu'il faut réfléchir. Cette histoire de stop and go paraît, en effet, un petit peu délirante. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas médecin, mais il faut l'intégrer. Mais c'est comment on affine les choses et comment, encore une fois, j'entendais le terme de génération libre. La génération libre, c'est aussi les vieux qui sont de génération libre. C'est-à-dire comment on laisse la liberté de la responsabilité de chacun et on est capable de parler aux gens en adultes et non pas en disant c'est comme ça que tu dois faire, tu dois rester chez toi et ainsi de suite. Non, c'est comment on implique les personnes et on y réfléchit ensemble. Et il y a peut-être un dialogue démocratique, il faut peut-être arriver en effet à différentes solutions, mais en discutant et pas que ce soit imposé du haut.
Maximus Bailly, génération libre, vous êtes pris à partie, donc que répondez-vous à Serge Guérin?
Je suis d'accord en partie avec ce qu'il vient de dire. Effectivement, je pense que l'État français aujourd'hui est dans une logique, pas de responsabilisation, mais de coercition. Il faut rappeler qu'on est les seuls en Europe, voire dans le monde, à avoir une attestation et à devoir remplir un formulaire pour aller acheter une baguette. Ça prouve bien que l'État est dans un rôle qui est quand même très infantilisant, ça je suis entièrement d'accord. Je veux juste rappeler quand même sur la solidarité intergénérationnelle, puisque c'est un terme qui est quand même très important. Il implique aussi justement notre système de sécurité sociale. Il est financé par les cotisations des actifs, c'est-à-dire par tous ceux qui travaillent, qui aujourd'hui payent les retraites des personnes justement vulnérables et donc qui leur permettent de continuer à vivre. Et donc la solidarité intergénérationnelle, elle nous oblige aussi matériellement à aider les personnes âgées, à aider les seniors en finançant leurs retraites, en finançant aussi les hôpitaux. Donc c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas opposer les générations, il faut au contraire comprendre que protéger l'avenir des jeunes, c'est aussi protéger la santé et la vie des aînés. Et je pense qu'il faut arriver effectivement à trouver un équilibre entre les deux. En tout cas, un confinement généralisé pour tout le monde, sans prise en compte des différents profils de risque, me semble être une très mauvaise solution à terme économique et humainement.
Il y a beaucoup de retraités qui continuent à travailler par choix ou par nécessité. Les assureurs les appellent les persistants. Ils représentent plus de 500 000 Français. C'est un chiffre qui ne tient évidemment pas compte du travail au noir. Et puis surtout, les seniors d'aujourd'hui, ils consomment, et ils consomment même beaucoup. Un couple de retraités nés entre 47 et 65 dépense en moyenne 28 000 euros par an, c'est-à-dire autant qu'un couple d'actifs sans enfants français. Donc, ils disposent aussi en moyenne de davantage de capitaux, de patrimoine que le reste de la population. Ce qui explique ce chiffre qui est quand même assez saisissant. Les plus de 50 ans représentent 52% de la consommation globale du pays. Alors ils dépensent dans la santé, dans l'alimentation, puis aussi dans des secteurs plus précis. Les plus de 65 ans par exemple, ce sont les premiers acheteurs de voitures neuves en France. 70% des parfums de luxe, c'est un secteur qui est d'ailleurs touché en ce moment, sont achetés par des femmes de plus de 50 ans. Et puis, et c'est bientôt de saison d'ailleurs, un tiers des jouets est acheté par les retraités, sans compter, vous le disiez également, le soutien logistique, le soutien financier qui est apporté par les seniors dans la famille. D'après l'Observatoire CTLM 2016, près de 80% des seniors, encore une fois, pardon, européens, contribuent aux dépenses ou à l'épargne des enfants et même des petits-enfants. Stéphanie Villers, isoler les personnes plus âgées aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi se priver de leur contribution à l'économie ?
Oui, bah absolument. Les chiffres.
Ils travaillent et consomment.
Bien sûr. Hein. Moi, je suis pas pour l'isolement forcé des plus âgés. Je suis pour la responsabilité de tous. Hein. C'est du bon sens. Hein. Si on regarde encore le cas allemand, on voit bien que il n'y a pas d'attestation. Il y a quatre fois moins de décès outre-Rhin que chez nous parce que vraisemblablement il y a plus de responsabilité, quelle que soit la classe d'âge, à respecter les mesures barrières. C'est un fait. Hein. Ensuite, les plus âgés ont un avantage, c'est-à-dire c'est eux qui disposent de l'épargne totale. Hein. Une grande partie de l'épargne est entre les mains des plus âgés. Et pour faire repartir la machine économique, lorsque le vaccin va arriver, et c'est pour finalement relativement, ça va être relativement proche entre le premier et le deuxième trimestre 2020, eh bien, il va falloir 21, repartir, faire repartir la machine. Les jeunes sont là pour créer, pour innover. Il leur faut des financements et ce sont les plus âgés qui disposent de cette manne financière. Donc, effectivement, la solidarité intergénérationnelle va devoir aussi jouer sur ce plan-là au moment de cette sortie de crise.
On avait écrit dans Le Temps avec Pierre Tavoyau un bouquin sur la guerre des générations aura tel lieu. On montrait que ce qui tient dans ce pays, c'est justement ça.
C'est la solidarité, vous voulez
cette
dire.
Cette alliance entre les générations. Mais on l'a vu au moment du Covid, vous avez aussi le jeune étudiant qui va taper à la porte sur le palier de Madame Denise, qui lui demande un peu si elle a besoin d'aller faire des courses et des choses comme ça. C'est pas des grandes solidarités, mais c'est quand même aussi des attentions. Et c'est Madame Denise aussi qui fait de la tambouille et qui en offre à l'étudiant en question. C'est-à-dire qu'il se passe plein de petites solidarités minuscules comme ça, qui fonctionnent plutôt bien.
Donc et ça, c'est la première chose. Et qui n'est pas remis en cause, selon vous.
Non, au contraire, je crois qu'il y a des salauds. Il y a des égoïstes, bien sûr, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes, hein, pour le coup. Voilà. Ça se répartit également dans la population. C'est vrai que le terme senior, j'avais parlé des quinquados, pour parler justement des plus de 50 ans, en disant qu'ils sont aujourd'hui des gens capables comme ça de renouveler les choses, en quelque sorte. Alors, ça, c'est la première chose. Redeker, moi, je suis en désaccord total, parce que, en fin de compte, d'abord, je dirais qu'on a sacrifié beaucoup les vieux sur le premier confinement. Globalement, les masques et tout ça, en dernier lieu. C'était dans les EHPAD. Moi, j'ai eu des étudiants qui m'appelaient en disant « Les flics sont en train de venir pour nous prendre les masques, pour les mettre dans les hôpitaux. » C'est quand même des réalités. Donc, non, je ne crois pas. Et qu'en même temps, ces gens âgés, parfois, ils ont tout fait aussi, y compris certains disant « Soignez d'abord, prenez d'abord les plus jeunes, ainsi de suite. » Donc, il n'y a pas eu ça. Et au contraire, il y a eu, je crois, une prise en compte des uns et des autres de la fragilité de l'autre. Et vous disiez 22 millions. Mais pour moi, des avantages
de 22 millions de personnes fragiles.
Mais d'une certaine manière, on est tous fragiles. Et je crois que beaucoup de gens en ont pris conscience. Je suis fragile. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'une partie des plus jeunes sont aussi dans cette fragilité-là.
Non, moi, je pense que le risque existe et qu'il va aller en grandissant. Quand vous regardez les chiffres, par exemple, c'est la première fois que les retraités sont, en termes de niveau de vie, plus riches que les actifs. La France compte 14 millions de retraités. C'est la première fois dans son histoire. Et je pense que les mécanismes de solidarité entre les générations fonctionnent mal parce que l'État ne sait pas réformer ou actualiser. Je vous rappelle par exemple que le taux de pauvreté chez les plus jeunes est trois fois supérieur à celui des seniors. Donc je pense qu'on laisse quand même un pays difficile. Je ne parle pas de la dette publique ou de la dette climatique, je ne parle pas de la récession en ce moment. Il y a beaucoup de choses quand même qui font que cet héritage-là, c'est une facture qui commence à être très salée. Et je pense qu'il va falloir au bout d'un moment se poser sérieusement la question de savoir quel monde on laisse aux jeunes, si en plus on leur empêche de faire la fête, on leur empêche de circuler, on leur empêche d'étudier et de travailler. Je pense que dans la balance, ça commence à peser très lourd et qu'il y a effectivement ce risque-là de créer une jeunesse désabusée et des lendemains qui déchantent. Oui.
Avec une véritable rancœur. Vous n'êtes pas un peu trop angéliste,
Déjà, il y a plein de choses de ce que j'ai entendu. Par exemple, je rappelle que la retraite, les gens qui sont à la retraite, ce n'est pas un don, c'est un salaire différé. Pendant qu'ils travaillaient, une partie, au lieu de le récupérer en salaire, on cotise pour les gens qui sont à la retraite, mais du coup, on en profite après. Donc, ce n'est pas un don gentil comme ça, des gens jeunes qui donneraient l'argent. Absolument pas. C'est quelque chose qui a été, entre guillemets, mérité. Pendant que je travaillais, je cotisais, une partie de ce que j'aurais dû gagner va dans ce système-là. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on enlève, et d'ailleurs, Henri Sterdignac en parle très souvent...
L'économiste
disait, finalement, on dit oui, il y a un peu plus pour les retraités. Alors, que Maxime ne s'inquiète pas, ça va changer très vite, parce que les revenus des retraités sont en train de s'écrouler. Et ça ne va pas être la fête pour tout le monde une fois qu'ils vont s'écrouler. Et que globalement, quand on enlève les plus jeunes, alors moi, c'est peut-être conservateur, c'est peut-être ridicule, mais je trouve normal que quelqu'un qui a bossé 40 ans gagne plus que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Alors, c'est peut-être pas bien, mais voilà, c'est ma vision du monde aussi. Voilà.